chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Encore une exposition à Versailles? Oui, mais celle-ci est parfaitement légitime. Le nôtre en majesté, un grand angle du Figaro Magazine composé par Véronique Prat. En jouant sur la perspective, l'eau, la lumière, le nôtre a imaginé les plus beaux jardins du XVIIe siècle. Au château de Versailles, une exposition qui réunit plus de 500 œuvres a dévoilé la personnalité fantasque de cet ami intime de Louis XIV. Qui choisit pour blason un gros chou bien fleuri et trois escargots ne peut être mauvais. Si son nom est illustre, ses réalisations célèbres, le bonhomme, le nôtre, est pourtant mal connu. Commençons par sa mort, à 87 ans, un âge fort avancé pour l'époque, et le rare hommage que lui rend alors l'implacable Saint-Simon. Il fut fameux pour avoir donné le premier les divers dessins de ces beaux jardins qui décorent la France. Il avait une naïveté et une vérité charmantes. Lors d'un court séjour à Rome en 1679, le nôtre avait fait son compliment au pape Innocent XI. « Je n'ai plus maintenant de regret à l'idée de mourir », s'était-il écrié. « J'ai connu les deux grands hommes au monde, votre sainteté et le roi, mon maître. » Le pape, ayant répondu modestement qu'il y avait une grande différence entre les deux personnages, que le roi était bien jeune et lui bien vieux, le nôtre lui avait affectueusement tapé sur l'épaule. « Mon révérend père, vous êtes en bonne santé et enterrerez tout le sacré collège !» Éclat du rire du pape, auquel le nôtre n'avait pu résister. Il avait embrassé sa sainteté sur les deux joues. On avait lu à la cour la lettre contant l'anecdote. Le duc de Créqui dit qu'il n'en croyait pas un mot et paria 1000 livres d'or qu'il n'en était rien. « Ne pariez pas, le prévint le roi. Lorsque je rentre de campagne, le nôtre me prend toujours dans ses bras. »
Thank you.
Celui qui osait ainsi serrer le roi dans ses bras est né en 1613, pendant la régence de Marie de Médicis, dans une famille de jardiniers. C'est avec son père qu'il apprend les rudiments de l'horticulture et de l'arboriculture. Il entreprend des études d'agronomie, d'hydrologie et de mathématiques. Il s'initie aux beaux-arts dans l'atelier de Simon Vouet, le peintre du roi, où il étudie le dessin et la perspective. Il fait aussi la connaissance de François Mansart qui lui enseigne l'architecture. Toutes ces connaissances vont avoir une importance capitale pour sa carrière, qui ne consistera pas seulement en jardins princiers ou royaux, mais aussi en travaux d'urbanisme. Ainsi, il va créer aux Tuileries ce qu'on appelle l'axe historique, qui va du Louvre à la Défense, en passant par les Champs-Élysées. Tel sera le style le nôtre, des perspectives sans fin entrecoupées d'allées secondaires surgissant comme des échappées belles qui mènent au bosquet, afin de ménager la surprise du visiteur. Parterres et allées principales sont jalonnées de statues édifs taillées dans les formes les plus étonnantes, les taupières les plus fous. Autour de cette idée simple, la conquête panoramique du terrain et du paysage. Le nôtre va inspirer un nombre infini de jardins, mais aussi beaucoup de plans de ville, comme Washington par exemple. Prenant l'air d'un temps où les peintres étaient des moralistes et les dramaturges philosophes, il entreprend en 1656 son premier chef-d'œuvre, Vaux le Vicomte. Dans un espace de 40 hectares au cœur de la nature, il trace depuis le château une perspective qui s'allonge sur plus de 3 kilomètres et semble s'étirer à l'infini au-delà d'une colossale statue d'Hercule qui barre l'horizon. Le nôtre joue avec les lois de la perspective et de l'optique pour étonner le promeneur. Celui-ci pense atteindre en quelques minutes les grottes qu'il distingue en bordure d'un bassin. Mais plus il avance, plus elles semblent reculer. Ce travail sur les perspectives joue également sur les phénomènes de déformation, d'exagération, d'étirement qui introduisent de la fantaisie. Autant de jeux d'optique, autant d'incitations à la promenade. Et puis, il y a l'utilisation de l'eau indispensable. Avec le nôtre, les petits bassins deviennent de larges plans d'eau qui sont comme des miroirs où se reflètent le ciel et les nuages et qui, au fil des heures du jour, sont complices de la lumière. Pierre-Denis Martin a peint la vue du bassin d'Apollon les aménagements de Le Nôtre à Versailles vont ouvrir des perspectives dans toutes les directions. Des fonctions précises seront alors affectées aux différentes parties du domaine. Le jardin est destiné aux promenades et aux fêtes. Le parc à la chasse et à l'exploitation. À la mort de Louis XIV, Versailles s'étend sur 10 000 hectares, soit 10 fois plus qu'aujourd'hui. C'est la fête splendide que Nicolas Fouquet offrit à la cour en 1661 dans son château de Vaux-le-Vicomte rendit Louis XIV furieusement jaloux. Tous les courtisans avaient admiré le château construit par Levaux, orné de peintures par Lebrun, puis étaient passés dans le parc dessiné par Le Nôtre, où l'eau, cette âme des jardins, jaillissait de multiples fontaines. Le roi regarda le spectacle du haut de la terrasse qui dominait la cascade. Un souper délicieux suivit. Puis, Molière et sa troupe jouèrent les fâcheux. La soirée se termina par un feu d'artifice qui éclaira le parc. Cette féerie apparut au roi comme un aveu de malversation. 20 jours plus tard, Fouquet était arrêté par D'Artagnan et jeté au cachot. Tout ce que Louis XIV avait vu à Vaux fut annexé à Versailles. Le trio, Le Vaux, Le Brun, Le Nôtre, entra aussitôt au service du roi. À Versailles, Le Nôtre peaufine ses conceptions en matière de jardin, en métamorphosant un site décrit par Saint-Simon comme « le plus triste et le plus dénudé des lieux, dépourvu de perspectives, d'eau et de bois », en ce qui deviendra un modèle pour l'Europe entière. Le jardinier montre son intelligence du terrain, il en utilise toutes les ressources, s'adapte, fait preuve d'imagination et même de fantaisie. D'une terre ingrate et fangeuse, il fera surgir un jardin merveilleux et d'innombrables fontaines. Les travaux, qui commencent en 1662, dureront 25 ans. Les comptes sont là pour conserver le souvenir de cette entreprise colossale. Symétriquement déployé à partir de la galerie des glaces, l'espace du parc est rythmé sur 3 axes, longitudinal vers le Grand Canal, latéraux vers le bassin de Neptune et le parterre du Midi au-dessus de l'orangerie de Mansart qu'embaumaient les lauriers roses. Ce plan cruciforme suit sur l'axe est-ouest le cours de l'astre, emblème du roi, qui envoyait le couchant sur le Grand Canal par-delà le char d'Apollon. C'est dans cet esprit cosmogonique que Lebrun conçut la statuaire qui se présente aussi comme un exemple éclatant du grand goût, du temps et la source de l'immense essor de la sculpture d'ornement à travers les talents, tels que ceux de Girardon, Le Hongre, Tubi, Quassevox, qui travaillaient pour Le Brun et Le Nôtre. Symbole de puissance et de grandeur, les réalisations de Le Nôtre sont plébiscitées. On s'arrache ses services et tous les princes d'Europe veulent avoir leur Versailles. Dans les années 1670-1680, on comptait une dizaine de projets sur lesquels le génial jardinier travaillait en même temps. En 1698, il trace pour Guillaume III d'Angleterre les plans des jardins du château de Windsor. D'autres filiations sont évoquées dans l'exposition. Le Blenheim de Van Bruck en Angleterre, le parc et les jardins de Peterhof pour Pierre le Grand, petit Versailles relié à la mer Baltique comme son modèle au Grand Canal. Autre exemple, espagnol cette fois, la Grande Ra, jardin d'eau enchanteur conçu pour le roi Philippe V. Les allées rayonnantes de Le Nôtre inspirèrent jusqu'à l'Amérique, témoin le tracé de Pierre l'Enfant pour Washington, ciselé dans la nature sauvage du Nouveau Monde, et les parterres suspendus du Rockefeller Center à New York. Voilà bien la preuve que Versailles ne se conçoit pas sans ses jardins. L'architecture de pierre des bâtiments est prolongée par celle, plus subtile, dont Louis XIV a aimé s'entourer dans ses jardins. La langue est la même, une noblesse qui sait ne pas être pesante, une unité qui sait éviter l'ennui, une symétrie qui existe en surface mais pas dans les détails. Le roi veut des perspectives, des échappées, des bassins, des bosquets, des parterres. Le nôtre va les lui donner. Pour cela, il va inventer le jardin à la française. Une majesté qui n'existe qu'ici. L'exposition de Versailles consacre aussi une section à son talent d'amateur d'art et de collectionneur. Dès 1650, le jardinier consacre une grande part de sa fortune, qui devient vite considérable, à l'achat d'œuvres d'art, tableaux, gravures, dessins, sculptures, bronzes, médailles et porcelaines. Ses goûts sont proches de ceux des grands personnages pour qui il travaille. Gaston d'Orléans, Nicolas Fouquet ou le Grand Condé. Et pour la plupart, ses œuvres contemporaines sont réalisées par les artistes qu'il fréquente, surtout les Français, mais aussi des grands maîtres italiens ou flamands. On y recense plusieurs tableaux de Nicolas Poussin, dont le Christ et la femme adultère, chef-d'œuvre de 1653, et le port de mer au soleil couchant de Claude Lorrain, une merveille. Le nôtre partage le goût du roi pour l'Albane, Apollon et Daphné, et pour le Dominicain, Adam et Ève, chassés du paradis. Sa collection devient vite si imposante que les guides de Paris destinés aux riches voyageurs de l'époque conseillent vivement le détour par sa maison, situé au cœur des Tuileries, où trois pièces en enfilade sont consacrées aux peintures et médailles. En 1693, le nôtre offrit à Louis XIV le meilleur de sa collection, dont 21 de ses plus beaux tableaux, que le roi disposa en bonne place à Versailles et que toute la cour put admirer. Une véritable consécration pour le nôtre. Boccherini, Hoffmann et Corelli nous ont accompagnés aujourd'hui. Marie-France Guimard-Roche reviendra avec vous à Versailles pour d'autres émissions de Bienvenue chez le Roi. Celle-ci était enregistrée et réalisée par Pierre Écart dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.
Thank you.